Seconde main, circuit court ou encore réduction des emballages ou des transports, la responsabilité sociale des entreprises, la fameuse RSE, n'est plus un sujet accessoire pour les retailers. Outre l'évident impact positif de ces démarches sur leur image et sur leur réputation, on peut parler notamment sur la dimension d'attirer ou de conserver des collaborateurs, la RSE est aussi aujourd'hui un sujet de fidélisation des clients, à condition que cette question soit traitée efficacement par le commerçant et inscrite au cœur de sa stratégie. Alors, comment en 2024 peut-on aborder ce vaste sujet de la RSE quand on est un retailer? Quels sont les changements auxquels les retailers vont faire face? Qui prend le lead du sujet au sein des organisations? Quelle bonne communication avoir? Et puis concrètement, on commence par quoi? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans cet épisode. Vous écoutez la Retail Session du podcast Altaviora, le podcast des retail addicts qui veulent rester à l'affût des évolutions du commerce d'aujourd'hui et des tendances de demain. Je suis Ludovic Noël, le directeur de l'agence. Et aujourd'hui, j'ai à nouveau le plaisir d'accueillir Laure Collet, directrice conseil en charge de la thématique RSE au sein de l'agence Altaviora. Laure, bonjour.
Merci Ludovic. Bonjour.
Alors, tu es une habituée du podcast, donc ça va inciter les gens à écouter les autres podcasts que tu as enregistrés. Donc, je ne vais pas te demander de te présenter en quelques mots. Par contre, je goûte mon plaisir de te dire, dans tout ce que tu viens de dire, pourquoi on devrait te croire sur parole.
Ah, j'étais pas préparée.
Je sais.
La RSE, en fait, on apprend. Donc, me croire, en fait, moi, j'apprends un petit peu en accompagnant les clients, en découvrant de nouvelles solutions. Donc comme
croire,
vous, on va
en tout cas,
ensemble.
Voilà, c'est ça, de tout ce que tu as pu découvrir. En fait, tu es dans le partage plus que dans le... Effectivement, dans la croyance. On commence toujours le podcast par une deuxième question traditionnelle qui est la question off. Est-ce que récemment, Laure, il y a quelque chose qui t'a étonné, bluffé, que tu as vu dans ton quotidien et dont tu voudrais partager effectivement la matière à nos auditeurs?
Alors, chaque jour, il y a des choses qui me surprennent, surtout concernant les RSE. Il y a des choses plus sérieuses et d'autres un petit peu plus ludiques. Alors, j'avais envie de vous partager deux choses.
Ah.
La plus sérieuse, en fait, c'est l'engagement des entreprises dans la CEC.
Qu'est-ce que la CEC, alors?
Alors, le Comité des entreprises pour le climat, il n'y a plus maintenant. Donc, en 2022, il y avait plus de 150 entreprises qui avaient fait le parcours. Et là, maintenant, il y a plus de 500 entreprises, en fait, qui suivent le parcours. Donc, ça me semble énorme. On n'en est qu'au début. Là, on était plutôt, en fait, sur ce qui me bluffe, en fait, au quotidien. C'est vraiment cet investissement des entreprises, en fait, qui prennent conscience et qui ont envie, en fait, de se transformer. Et une autre plus légère,
oui.
C'est une marque de bière qui récemment a lancé des doudounes rafraîchissantes Tiger Beer.
J'ai vu ça, ouais.
Ce qui m'interpelle, en fait, c'est vraiment cette innovation. Et au final, on se dit, en fait, la RSE, c'est pas fun. Il y a rien à inventer, mais au contraire, en fait, il y a tout à inventer. Et c'est ce mélange, en fait, de techniques, d'innovation, pour apporter, en fait, des solutions légères et
c'est ça.
À peine croyable.
Vive les solutions et n'hésitons pas à être un peu léger, innovant parfois. Merci d'avoir joué le jeu de la question off et on va, si tu le veux bien, maintenant rentrer effectivement dans le vif du sujet. Alors je disais, Laure, c'est pas la première fois que tu participes à l'émission Retail Session, seul ou avec des retailers d'ailleurs qui viennent partager leur expérience sur les sujets RSE ou de marque employeur. Aujourd'hui, l'enjeu, tous les deux, de cet épisode, c'est de faire un point à date et de se mettre dans la perspective de 2024 et de se dire finalement, par rapport à ce que tu as déjà pu historiquement nous partager, qu'est-ce qui, pour toi, en 2024, sont des enjeux forts pour les retailers?
En fait, la première chose que j'ai envie de partager, c'est, je pense que ça devient de plus en plus concret pour les entreprises. Elles font face de plus en plus, en fait, aux limites planétaires. Par exemple, en fait, je prends l'exemple d'un retailer qui commercialise des accessoires pour les piscines.
Oui.
Là, concrètement, en fait, toute la dimension, en fait, de pénurie d'eau, de changement climatique le touche de près avec toute l'interdiction de remplir, en fait, ces piscines. Mmh. Donc, il n'a, en fait, d'autre moyen que de se réinventer.
Quand tu dis plus concret, c'est-à-dire que de toute façon, les retailers voilà, sont un peu plus impactés directement dans leurs activités que de se dire, tiens, il y a un mouvement général dans la société, je vais essayer d'y répondre. Non, là, ça touche le cœur du business.
Voilà, tout à fait. En fait, c'est concret. En fait, ils le vivent au quotidien. Il n'y a pas d'autre solution. Là, c'est le côté, on va dire, contextuel. Et puis après, en fait, on a beaucoup de changements législatifs qui arrivent. On a la loi AGEC où de plus en plus de mesures en fait, sont en train de passer et invite les retailers à se réinventer. On a la CSRD qui rentre en application en fait, prochainement.
Attends, juste pour quand même comprendre, parce que là, tu viens de me dire AGEC et CSRD. Et juste pour nos auditeurs, parce que tout le monde ne maîtrise pas en fait, tous ces acronymes. CSRD, par exemple, qu'est-ce que c'est ?
Alors, en deux mots, parce que même l'acronyme en fait, est complexe, mais c'est une nouvelle directive qui va impacter les entreprises en fait, pour les inviter à déclarer en fait, de plus en plus toute la durabilité, tous leurs engagements en fait, de durabilité.
D'accord, donc directive européenne qui de toute façon va s'imposer auprès des entreprises. D'accord, autre enjeu important pour 2024 que les retailers doivent avoir en tête ?
Alors on a toujours en fait, une demande en fait, constante sur tout ce qui est appel d'offres, avec une notation de la RSE en fait, assez importante, et puis la pression des consommateurs en fait, avec des attentes en fait, de plus en plus développées.
Pression des consommateurs, justement, est-ce qu'on, au-delà de... Est-ce qu'on peut se dire que c'est une attente des consommateurs de voir des marques et des retailers qui s'engage. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur en 2024, là, cette pression des consommateurs, est-ce qu'elle devient là aussi un peu plus concrète ?
Alors, elle devient concrète, mais surtout, elle devient de plus en plus difficile à cerner par les retailers.
Ouais.
C'est une ambivalence assez forte entre les déclaratifs qu'on peut constater dans toutes les enquêtes de satisfaction qui sont faites, toutes les enquêtes en fait, sur les attentes consommateurs, avec une déclaration de plus en plus forte autour du Made in France, autour de nouvelles matières. Et en même temps, en fait, on constate dans le concret, en fait, dans la réalité, une baisse, par exemple, une baisse des achats autour du bio, de la bio, ou une baisse des achats, en fait, autour de produits plus éco-responsables. Donc, on est dans un vrai paradoxe qui noie un peu les retailers.
Si je le dis autrement et avec mes mots, on voit les succès des Action, Jiffy et autres chaînes B&M.
Et des chaînes, par exemple, tout à fait.
Des chaînes en ligne. Et donc, du coup, il y a à la fois cette demande. Donc, on est tantôt en attente, effectivement, de pouvoir nous aider à consommer responsable. Et en même temps, dans certaines pratiques, on ne le voit pas.
Tout à fait.
C'est ça la difficulté pour une entreprise d'arriver à lire en fait ce qu'est le mouvement actuel.
Voilà. Et par exemple, je voulais citer l'exemple d'une start-up dans les sneakers qui s'appelle UBAC, est locale en fait, qui est implantée en région Rhône-Alpes. Et dernièrement, en fait, donc ils ont une politique d'éco-conception de leurs produits qui va toujours de plus en plus loin, donc toujours avec des recherches en fait de relocalisation, d'utilisation de matières premières françaises. Ouais. Et dans cette démarche-là, en fait, ça implique une augmentation des coûts. Et là, je les ai vus ces dernières semaines, en fait, faire un rétropédalage dans l'augmentation des coûts. Donc, pour rabaisser le niveau d'éco-conception de leurs produits, pour avoir un prix, en fait, qui soit adapté, qui soit acceptable aussi, en fait, par leurs clients réguliers.
C'est ça, le fait d'aller très loin, on sort du marché.
Tout à fait.
Et on a une difficulté à vendre ces produits, même s'ils sont très vertueux et...
Donc, tout est dans l'équilibre entre justement l'engagement, l'éco-conception et tout ce qu'on va pouvoir mettre en place et accompagner cette transformation aussi pour les consommateurs, parce que n'oublions pas, en fait, depuis les 30 Glorieuses, qu'on est vraiment dans cette société de consommation. Donc, c'est toute une rééducation du consommateur, en fait, qui est en train de s'opérer entre cette envie de déconsommation et cette concrètement, en fait, dans le quotidien, comment ça se passe.
Ouais, d'autres diront, c'est comment on passe de ce modèle, effectivement, de surconsommation à juste consommation, mais au-delà de le déclarer, il va falloir aussi, comme tu le dis régulièrement, aider le consommateur à consommer un peu plus responsable dans un monde, et c'est sûrement contextuel aussi, où les niveaux des prix et de l'inflation a tellement augmenté que même pour les plus engagés, ça devient compliqué, en fait, de consommer bio ou responsable derrière.
J'avais envie de parler d'un autre point aussi sur la pression des consommateurs, c'est que au final, en fait, il y a certaines études qui ont été menées, notamment par Impact. C'est qu'il y a un gros décalage entre le déclaratif, donc ce que le consommateur lit, voit sur les engagements en fait d'une entreprise, et ce qu'il vit concrètement au quotidien. Donc il y a vraiment une attente très forte d'expériences vécues autour des engagements de l'entreprise. Pas forcément, en fait, d'avoir du déclaratif, de belles publicités, de beaux discours, mais surtout vivre au quotidien dans sa relation qu'il a avec le vendeur, avec le responsable du magasin, pouvoir vivre, en fait, ses actes.
C'est ça. Donc, un consommateur à la recherche de preuves.
Tout à fait.
Plus que de discours. On a tous en tête des retailers, tu sais que je vais te poser cette question-là, qui sont exemplaires, parce qu'à chaque fois qu'on dit, bah tiens, cite-moi des noms, bah, c'est toujours les mêmes qui sortent, hein, Decathlon, Patagonia, et on a à peu près tous les mêmes exemples, mais profitons de ce podcast aussi pour se dire, tiens, est-ce que toi, tu as repéré dans cette logique dans laquelle tu es, toi, en termes de posture, qui est de détecter des bonnes pratiques, des bons exemples, est-ce que tu peux nous en donner d'autres que les fameux que tout le monde ressort tout le temps.
Et ce qu'on constate, c'est qu'on est vraiment sur une évolution. On a passé le stade un petit peu des tests. Et là, les retailers sont en train de chercher leur business model, notamment sur tout ce qui est économie circulaire. Donc, par exemple, la Redoute, en fait, qui est un exemple que je peux citer, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, avait lancé, il y a un ou deux ans, la Reboucle,
oui,
avec un modèle en fait, de produits de seconde main vendus dans un modèle C2C. Là, ils sont repassés sur un nouveau modèle basé sur le C2B2C, c'est-à-dire que les produits ne sont plus commercialisés par le consommateur, mais ils sont commercialisés par des entreprises dont c'est le métier en fait, de commercialiser du seconde main. Ce qui garantit une qualité produit, une sélection produit, une réparabilité déjà en fait, qui a été mise en place sur le produit. Et puis, en fait, pour avoir ce modèle rentable, il se base sur ce qui fait le succès aussi de la première main, c'est-à-dire les garanties produits, le retour produit en fait sous 30 jours. Voilà. Donc on est vraiment sur un changement de modèle.
Ce que tu veux dire là, c'est que le modèle de Vinted qui est, ou du Bon Coin, où en fait c'est des particuliers qui ont des produits entre eux, il peut y avoir un modèle où un intermédiaire rentre dans la boucle et justement sélectionne, peut-être répare. Parfois, et propose un certain nombre de services qu'un particulier ne pourra pas offrir à un autre particulier à qui il vend son produit. C'est ça que tu es en train de souligner comme tendance qui est intéressante.
On est vraiment sur comment on relève le niveau de confiance et comment en fait, on apporte les mêmes garanties qu'un produit de première main.
D'accord. Autre exemple de ce type, la Reboucle ?
Alors, un autre qui est intéressant, en fait, et qui va faire un petit peu suite avec ce qu'on va échanger plus tard, c'est Crushon. Le seconde main ne se vend pas comme un produit neuf.
Ouais.
On n'est pas sur le même merchandising, on n'est pas sur une offre produit, une pléthore d'offres produits avec un choix de taille très large. Le prix, en fait, parfois n'est pas aussi bas qu'on pourrait l'espérer ou qu'un Shein, par exemple. Et du coup, il y a toute une formation des équipes de vente pour pouvoir avoir le bon argumentaire pour des produits de seconde main. Et donc c'était intéressant en fait de voir comment Crushon accompagne ses équipes en fait sur la formation des produits de seconde main.
Ouais, vraiment préparer aussi les équipes sur le terrain à cette typologie de vente qui évidemment n'est pas comme tu dis les références, il n'y a pas la taille. Donc faut aller vers d'autres produits, d'accord. Notre exemple que tu voulais partager.
Alors, j'en aurais beaucoup. Le dernier, on peut citer, en fait, le dernier en date qui a lancé son éco-score, c'est But.
D'accord.
But, en fait, qui anticipe tous les changements qui vont être opérés autour de l'obligation de l'affichage environnemental opéré par la loi AGEC. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas juste, en fait, sur un outil de visibilité sur les produits pour aider le consommateur. Mais on est aussi là à travers en fait, un éco-score pour donner les clés aux chefs de produits pour pouvoir apporter en fait, les améliorations en fait, sur les produits, pour pouvoir sensibiliser les fournisseurs aussi et pour embarquer en fait, l'ensemble des parties prenantes.
C'est ça. Très bien, merci de ces trois nouveaux exemples effectivement, par rapport à ceux qu'on a habituellement en tête. Souvent, tu dis qu'il y a cinq piliers d'action. En tout cas, c'est ceux que tu nous avais partagés il y a un peu plus de deux ans maintenant. Justement, si on se projette sur 2024 par rapport à tes cinq piliers qui sont souvent un drive en termes d'analyse de tes clients, comment tu les... Alors, nous rappeler peut-être les cinq enjeux et ensuite dire, bah tiens, en 2024, lesquels changent, modifient ou prennent plus d'importance que d'autres?
Alors, pour rappel, les cinq enjeux, c'était 1, réduire, 2, réparer et recycler, 3 prouver, 4 choisir son combat et 5 embarquer.
Ouais.
Et ces 5 piliers, pour moi, ils sont toujours d'actualité.
D'accord.
C'est encore une clé de lecture en fait, qui est toujours intéressante à analyser. Mmh. Mais ce qu'on peut constater, c'est que certains en fait, viennent se regrouper. Notamment, en fait, 2 piliers, réduire, recycler, remplacer. On s'inscrit là, en fait, sur un phénomène qui permet, en fait, de rentrer dans un mode de déconsommation,
c'est
d'aller
ça.
Plus, de changer de business model aussi, avec des actions très concrètes. On en a parlé tout à l'heure, mais comment, à travers, en fait, ces 3 piliers, on arrive à changer de business model et à aller vers plus d'économie circulaire. On en a 2, prouver et choisir son combat, où là, on est sur un équilibre entre l'alignement et la preuve.
Mmh.
Et le dernier, celui qui prend le plus d'importance, à mon sens, aujourd'hui, c'est comment embarquer. Mmh. Plus que jamais, en fait, on parle de transformation dans l'entreprise, de transformation du modèle économique. Et donc, on a cette obligation, cette importance en fait, d'embarquer l'ensemble des strates de l'entreprise, l'ensemble des parties prenantes, mais d'abord aussi les collaborateurs. Mmh. On fait face à un changement de métier, on fait face à des attentes, on l'a dit tout à l'heure, assez fortes de la part des consommateurs qui ont des attentes envers en fait, les personnes qu'ils rencontrent au quotidien de l'entreprise.
Mmh. Comme toute bonne transformation, en fait, tu reviens là aussi sur ces modifications dans le retail qui imposent à ce qu'on embarque vraiment l'ensemble des collaborateurs et pas... un comité de direction, peu importe son nom, comme ExcoDir, qui a décidé d'une stratégie et qui demande à tous de la déployer, c'est-à-dire comment on embarque, c'est-à-dire comment on associe, comment on forme, parce que tu parlais de Crotion tout à l'heure. Hein. Donc, c'est un véritable engagement pour que l'ensemble de l'entreprise soit aligné sur cet enjeu. Ok, merci pour ce rappel, effectivement, sur les 5 enjeux qui te servent de grille de lecture et donc de l'évolution là sur 2024. Quels sont, dans ton quotidien, les questions principales qui te sont posées ou les difficultés les plus fréquentes que tu rencontres autour de cet enjeu RSE chez les retailers?
Il y a deux difficultés en fait, qui sont rencontrées actuellement, notamment hein, parmi toutes les difficultés qui sont parcourues. La première, c'est comment on passe d'une RSE corporate à vraiment une transformation profonde de l'entreprise, à comment on embarque dans sa stratégie RSE l'ensemble des collaborateurs. On en a parlé juste avant. Donc, c'est vraiment, en fait, comment on rend concrète et comment on rend au quotidien, en fait, vivante cette stratégie RSE. Mmh. Comment cette stratégie RSE aussi peut être portée par les commerciaux, peut être portée par les vendeurs au quotidien, comment ils peuvent avoir le bon discours. Donc là, on arrive à une autre des questions qui est quand faut-il communiquer, que faut-il communiquer et à quoi sert la communication. On a toujours cette image en fait de la publicité, enfin du nombre de publicités qu'on a autour de la RSE, où on voit en fait justement dans les derniers sondages de l'ADEME, on a quand même un chiffre assez fort. En fait, c'est 85% des Français considèrent que les entreprises et les marques incitent à la surconsommation. Et que 89% des publicités utilisent des techniques pour inciter à consommer toujours plus. Donc, on a vraiment une image de la communication et de la publicité assez négative. Pour moi, en fait, le rôle de la communication, elle a un rôle majeur dans cette transformation, qui est un rôle d'explication, de verbalisation, justement, en fait, pour pouvoir expliquer cette stratégie, faire comprendre avec des mots simples ce vers quoi on va, ce vers quoi on tend, quels sont les changements. Pourquoi en fait acheter un produit plutôt qu'un autre? Quelles sont les valeurs, les vertus en fait de ce produit en toute transparence? Mais comment on arrive à donner les clés aux consommateurs pour pouvoir en fait acheter mieux?
Oui, c'est ça. On le disait en début de podcast, il y a souvent des acronymes, des noms, des lettres qu'on lit en tant que consommateur et qu'on capte pas, on comprend pas ce que c'est. Et deux, au-delà des acronymes, c'est de se dire par rapport parfois aux forêts de logos que j'ai entre un Made in France, un bio certifié, la vraie difficulté de se retrouver pour un consommateur qui est de se dire mais au fond, je ne sais plus comment consommer et bien consommer, quelque part, consommer responsable. Donc l'enjeu pour les marques comme pour les retailers, c'est d'avoir un discours, finalement, une stratégie de communication comme pour leurs produits. Et là, pour le coup, à destination des consommateurs, voire de leurs collaborateurs, pour être en capacité de dire les choses clairement et facilement.
Tout à fait.
Trop de complexité.
Donner des billes à la fois aux consommateurs,
ouais.
mais donner les billes et le bon argumentaire
aux équipes qui sont équipes face aux consommateurs.
Aussi.
Ouais, c'est ça.
Ouais. La communication a une autre vocation. C'est aussi, en fait, de créer des nouveaux imaginaires. Également, en fait, pour rendre sexy ce qui n'est pas sexy, en fait, ou ce qui n'était pas sexy. Une des marques, en fait, qui, pour moi, a bien réussi, en fait, à rendre sexy ce qui n'était pas sexy, c'est Back Market. De par sa communication, en fait, il rend enviable des produits qui, autrefois, en fait, étaient plutôt des produits de seconde main.
Ouais.
Et donc, il permet, en fait, de rendre enviable au-delà du prix, en fait, certains produits.
Oui, il travaille la désirabilité et sa campagne, effectivement, qui a reçu quelques prix, en est la preuve sur New is Old.
Tout à fait.
Qui a travaillé cette désirabilité, effectivement, des produits de seconde main. Et on peut le mesurer en tant que consommateur quand on voit maintenant des magasins de, alors peu importe leur terme, vintage, seconde main, occasion, où on voit des vraies boutiques aujourd'hui, là où historiquement on avait un amas de vêtements. Aujourd'hui, c'est des portants, des cintres, des choses qui sont un peu organisées. C'est ça aussi, développer demain le commerce de seconde main, c'est donner envie et augmenter la désirabilité effectivement par rapport à ces... à ces produits-là. Mais alors, au fond, quand on parle de tous ces sujets de transformation, de réponse à des normes, à des choses qui sont... tu parlais de directives européennes en introduction. À la fin, est-ce qu'on arrive quand même à garder son caractère, son ADN en tant que marque et retailer, ou est-ce qu'on ne va pas aller non plus là vers une espèce d'homogénéisation, est-ce qu'il faudra respecter des standards, des choses établies? Comment tu... T'arrives à dire à nos auditeurs, là, à un moment donné, oui, on peut continuer à garder son aspérité, sa désirabilité, comme on vient de l'évoquer à l'instant, tout en appliquant un certain nombre de choses normatives.
Tout l'enjeu est justement, en fait, de garder le cap.
Ouais.
Et de construire des nouvelles choses, d'imaginer, en fait, de nouvelles solutions, de nouvelles offres, en fait, un nouveau business model, mais qui soit lié, en fait, à ce qui est l'essence même de l'entreprise. C'est pour ça que pour la réussite en fait, de cette transformation, c'est extrêmement important que l'ensemble du comité de direction, que l'ensemble des actionnaires en fait, soient embarqués dans cette transformation, que l'ensemble des partenaires historiques comme les fournisseurs historiques en fait, soient embarqués aussi dans cette transformation. C'est aussi un objet de fidélisation des clients, de pouvoir aussi les embarquer dans cette transformation, dans cette réflexion. Récemment, par exemple, iCode, qui est une marque de une enseigne de textile, à interroger ses clients sur ce qu'ils voulaient demain en fait d'iCode. L'idée, c'est de ne pas perdre les clients actuels en fait qu'une enseigne a, mais c'est vraiment de les embarquer dans sa transformation. D'accord. Et donc, au contraire, je pense que le champ d'innovation en fait est assez large et assez énorme, et que chaque entreprise peut et doit garder sa singularité.
Ok, c'est un moyen de, c'est plus une logique d'ouverture que de fermeture par rapport à des ADN de marque ou de retail qu'on peut développer. L'actualité aussi pour toi alors, c'est que tu lances ce mois-ci, fin novembre 2023, une offre qui s'appelle Commerce. Alors Commerce, écrit un peu particulièrement parce que la fin c'est RSE.
C'est vraiment la RSE au cœur du commerce.
C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi tu as été amené finalement après ces deux ans d'activité de l'accompagnement des retailers sur leur offre RSE? Pourquoi maintenant cette offre Commerce?
On constate en fait qu'il y a beaucoup d'acteurs conseils qui viennent accompagner les entreprises sur ces sujets de RSE. Mais au final, en fait, les marques et les enseignes sont assez perdues parce qu'on est souvent en fait sur du déclaratif, sur du normatif, sur de la réponse justement à toutes ces nouvelles directives qui arrivent en fait, et on doit se formaliser. Mais il y a très peu d'acteurs qui viennent accompagner toutes ces marques et toutes ces enseignes sur l'inscription de la RSE au cœur même de son commerce, au cœur même en fait de la réalité terrain. Et donc c'est ce qu'on avait envie en fait de construire chez Altavia, d'accompagner les entreprises en fait sur l'ensemble des volets, sur le volet justement de comment on peut poser la stratégie, comment on peut imaginer de nouveaux imaginaires et raconter la bonne histoire basée sur des preuves. Et ensuite, comment on peut accompagner au déploiement de cette stratégie qui a été posée sur le terrain, à travers la formation des collaborateurs, à travers des messages de sensibilisation des clients, à travers des outils aussi. Donc nous, chez Altavia Aura, on est une agence de communication, historiquement. Donc sur le volet stratégie et sur le volet solution, on se fait accompagner, on a identifié un certain nombre d'acteurs, de partenaires fiables qui peuvent en fait venir avec nous pour accompagner ces comités de direction et ces entreprises.
C'est ça, poser la feuille de route. Et ensuite, on fait notre métier d'agence de communication. C'est une fois que vous avez défini votre périmètre, nous, notre métier, c'est de comment bien communiquer auprès des clients comme auprès des collaborateurs.
Exactement.
Dernière question à... Pour terminer, si tu avais un conseil à donner aux annonceurs qui cherchent justement à se dire « Ok, la RSE, maintenant, c'est au cœur de mon commerce », ça serait quel conseil ?
Alors, s'il n'y avait qu'un seul mot à retenir, c'est vraiment embarquer.
D'accord.
Embarquer les collaborateurs, embarquer les partenaires, embarquer aussi pour toutes les entreprises qui vivent aujourd'hui le parcours de la CEC. C'est comment, en fait, ils n'avancent pas trop vite, mais ils n'oublient pas, en fait, d'embarquer petit à petit, en fait, l'ensemble de leurs parties prenantes.
Ouais, gros sujet qu'on a entendu des entreprises qu'on connaît qui participent effectivement à la CEC, qui est de se dire, parfois, ils ont l'impression de revenir dans le magasin et de se dire ce que j'ai vécu et les échanges que j'ai partagés avec les autres entreprises qui sont engagées comme moi dans cette démarche-là. J'ai l'impression que je suis un peu déconnecté du quotidien de mes équipes. Donc, surtout, ne pas lâcher, rester bien collé à la réalité et au quotidien pour embarquer la totalité. Merci, Laure,
merci
pour partager
Ludovic.
Cette actualité, cette vision à date sur ce sujet de la RSE. Sur quels réseaux sociaux on peut te suivre, Laure ?
Alors, essentiellement sur LinkedIn, où je poste quelques articles, prochainement une tribune.
Très bien.
Donc, n'hésitez pas, en fait, où j'essaye de repartager, en fait, quelques actualités, en fait, que je vois.
Merci. De mon côté, je vous invite à suivre l'agence Altavia Aura sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Surtout, mettez les 5 petites étoiles en termes de notes sur la chaîne. Ça fait vraiment toujours plaisir et ça permet de mesurer votre satisfaction de la chaîne. Ce podcast est créé par Altavia Aura et Altavia Jet Pulp et produit par la société Little Bird. Salut JS. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, soit de la session retail, soit de la session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.
À bientôt.